Interview. 1.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Air Dubois pour l'interview en direct aujourd'hui. Et je stoppe la musique, merci pour la musique. Et donc pour le cadre des élections européennes 2024, nous sommes en présence, à commencer par Christian, bonjour.
Bonjour.
Ensuite Laura.
Bonjour.
Et Hervé.
Bonjour.
Et pour cela, vous êtes la représentation de la liste La France Insoumise dans le cadre de ces élections européennes 2024. Alors, avant tout, pour vous, quel est cet engagement de votre part pour ce mouvement et cette campagne électorale et ce que vous en espérez ?
Eh bien, moi, je peux dire en deux mots que La France Insoumise s'organise par des groupes d'action locaux, donc... On est membre du groupe d'action du DIWA depuis quelques temps déjà et on agit sur pas mal de sujets. On nous connaît dans plein d'endroits. Hervé va vous en dire un peu plus.
Oui, tout à fait. Alors, oui, ça regroupe donc des personnes qui habitent Die, mais aussi les villages avoisinants. Nous, on pense qu'il est nécessaire et qu'il est presque vital maintenant d'agir en opposition au pouvoir actuel, à celui qui se profile en catimini pour 2027. Pour nous, la gauche... La vraie gauche, c'est l'humanité de la gauche. Ce n'est pas celle qui a dit un jour que son adversaire, c'était la finance. Puis après, qui a mis Macron Rothschild aux finances, puis qui finalement lui a laissé la place. Et on voit bien que maintenant, depuis que Macron est là, bah, il y a un lit pour le Front National, ou le RN maintenant, qui arrive à rentrer dans les mœurs avec force milliardaire et médias interposés. Nous sommes des acteurs de terrain. On est engagés. On est vraiment engagés sur le bénévolat associatif. Alors, on pourrait citer quelques-unes des actions qui sont mises en place en ce moment sur Die. Vous avez les popotes, bien sûr, avec Laura. Là, le CLCV, donc il y a une association de défense des consommateurs à plein de niveaux, notamment sur le logement. Après, vous avez aussi toutes les personnes qui s'occupent de l'accueil des migrants, la Damaya, la Tram. On a même des personnes aussi à la recyclerie, à l'atelier vélo, au groupe France-Palestine. Et puis finalement, c'est quand même tout le groupe d'action de la France Insoumise qui a organisé toutes les manifs sur les retraites, et même la dernière, celle du mois de mai. Nous pensons qu'il est vraiment important de s'engager. Et sachez qu'à LFI, il n'y a pas de carte. Hein, donc tout un chacun peut venir nous voir et faire partie du groupe. Ce sera avec grand plaisir. Donc nous, les actions de résistance, on pense que c'est fondamental sur la création des liens sociaux. C'est fondamental justement par les temps qui courent. Et un engagement, c'est pas uniquement politique, ça peut être dans la culture, dans le social, à tout niveau. Il faut rompre avec cette espèce de chape de plomb qui risque de nous arriver et il faut se préparer. Donc maintenant, on est venu ici aujourd'hui, donc une fois qu'on s'est présenté, on est venu ici pour vous parler de l'Europe. Et je passe la parole à Christian qui va dire tout ce qui a été fait déjà par les élus de la France Insoumise au niveau du Parlement européen.
Alors pour commencer, ce qu'on aimerait faire, c'est un peu faire le point sur pourquoi nous votons le 9 juin. Et pour cela, présenter un peu le fonctionnement de l'Europe qui est quelque chose d'un peu ténébreux. Pour beaucoup de gens. Si on compare les instances européennes, en fait, il y a trois instances essentielles. Si on compare avec ce qui se passe en France, grosso modo, on a un Conseil de l'Europe qui est une sorte de président collectif, président de la République collectif. Une Commission européenne qui, elle, représente un peu un gouvernement de l'Europe. Et enfin, un Parlement européen qui, lui, représente un peu l'Assemblée nationale en France. Alors, le Conseil de l'Europe, c'est la réunion des 27 chefs d'État de l'Europe, plus la présidente de la Commission européenne. Ils ont un rôle de définition de la politique générale en Europe. Et comme ils sont co-législateurs, ils votent toutes les lois qu'on appelle des directives au niveau européen. La deuxième instance, c'est la Commission européenne, qui est composé de 27 membres, toujours pareil, un par État, dont une présidente et un représentant pour la politique internationale, pour les échanges internationaux. Cette instance n'a pas le droit de vote, mais par contre, c'est la seule habilité pour écrire les directives, c'est-à-dire les élaborer et les présenter aux législateurs. Et enfin, troisièmement, le Parlement européen, qui est composé de 750 membres, 81 pour la France, élu au suffrage universel. C'est la seule instance qui est élue par le suffrage universel. Ils sont les co-législateurs, ce qui veut dire qu'ils sont amenés à discuter et à amender éventuellement les textes proposés par la Commission européenne, ça dans des commissions, dans des commissions parlementaires spécifiques. Et en fait, ils votent les lois en séance plénière. Par ailleurs, ils ont également un rôle de contrôle, c'est-à-dire qu'ils ils ont un droit de veto sur les nominations des commissaires européens et de la présidence de l'Europe. Et puis, ils ont même un droit suprême de supprimer la commission, puisqu'ils, à travers un vote de censure, ils peuvent supprimer complètement la Commission européenne. C'est théorique, mais ça existe.
La dissoudre.
Voilà. Donc, en cas de désaccord entre les deux législateurs, qui sont donc d'une part le Conseil de l'Europe et d'autre part le Parlement européen, des commissions de consensus peuvent être mises en place pour essayer d'élaborer un texte sur lequel tout le monde est d'accord. Ce qui arrive assez souvent, en fait. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que la législation européenne, les directives, s'imposent sur le droit européen. À partir du moment où une directive est adoptée, chaque État a 2 ans pour mettre sa loi en conformité avec la directive européenne. Donc, c'est pas les parlementaires ont un pouvoir réel. C'est pas négligeable. C'est pour ça que c'est important de venir voter le 9 juin. Et c'est aussi pour ça que c'est important de voter LFI le 9 juin.
Alors, à venir... pardon.
Non, mais parce qu'après, on voulait faire le bilan un peu de... Parce que LFI, en fait, est présent au Parlement depuis 2019. Et donc, on a un bilan. Enfin, nos élus ont un bilan derrière eux. Un bilan qui est loin d'être négligeable. On a Manon Aubry qui est présidente d'un groupe parlementaire. Ce groupe parlementaire regroupe quand même 37 députés issus de 15 pays différents. On a une commissaire européenne. Qui est un commissaire, plus exactement, qui est Younous Omarjee, qui est président de la commission région, qui est un des plus gros budgets de l'Europe. Une vice-présidente de commission, qui est Leila Chabi sur la commission affaires sociales. Et on a une participation intense aux séances plénières, parce qu'il y a pratiquement 100% de présence aux séances plénières. Donc, sur ce bilan, on aimerait revenir sur un point particulier parce qu'il est quand même important. C'est toute la bataille qui a eu lieu sur les travailleurs des plateformes, qui a été une bataille qui a duré de 2021 à 2024. Donc, en 2021, il y a un premier rapport qui est présenté par la Commission européenne. Et ce qui s'est passé, directive européenne avait pour but d'encadrer le travail des travailleurs des plateformes, en particulier en faisant prévaloir une suspicion de contrat de travail par rapport aux travailleurs indépendants. Ça, c'est important parce que ça oblige les plateformes à salarier leurs employés, ce qu'ils ne font pas jusqu'à présent.
Il y a beaucoup d'entreprises qui sont concernées et des millions de personnes aussi.
Oui, ça concerne 500 entreprises et 28 millions de travailleurs à travers l'Europe, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Cette bataille est aussi assez significative du rôle de Macron dans les négociations européennes parce qu'il a tout fait sur ces 3 ans pour saboter la démarche et bloquer, si possible, le plus longtemps possible, cette directive. Dans un premier temps, il a réussi à obtenir au niveau du Conseil européen une minorité de blocage grâce à une abstention de la Grèce et de l'Estonie. Et après quelques réunions de commission d'entente, la Grèce et l'Estonie ont adopté le texte, ce qui fait qu'il n'y a plus de minorité de blocage possible au niveau du Conseil européen. Et au niveau du Parlement européen, les directives ont été très largement votées, 550 voix pour, 56 contre. Et donc la directive européenne a été adoptée et ça va jouer sur la vie de 28 millions de travailleurs, c'est loin d'être négligeable.
Oui, et puis aussi, tu parlais des réussites. Ben, il faut dire que sur les propositions des insoumis à l'Europe, l'esclavage a été reconnu comme un crime contre l'humanité. C'est pas rien. Il y a aussi, ils ont fait voter une loi qui crée une vigilance européenne sur les multinationales. Alors maintenant, quand une entreprise va aller en Afrique faire ses petites affaires, Total et compagnie, eh ben, les États pourront enfin pouvoir porter plainte, même des individuels. Par exemple, c'est quand il y a eu le Quatergate avec l'élu italienne là, qui avait pris un peu de monnaie en passant. Et ben, il y a eu une création d'un comité d'éthique pour gérer ce genre de choses. Alors ça, c'est les réussites. Après, il y a des combats qui sont en cours. Christian, les combats,
Pardon, je vais ramener un petit peu aussi la directive hein, de votre participation. Laura, toi, ton implication et aussi, qu'est-ce que tu espères aussi voir s'implanter au niveau de l'Europe et,
Moi, je vais parler de ce qu'on voit un petit peu, du coup, grâce aux popotes. Ben, on est pas mal en lien avec le monde agricole. Du coup, on a pas mal suivi ce qui se passe. On est tous au fait que notre territoire regroupe plein d'agriculteurs et de producteurs, plutôt des petits qui sont vers le bio ou qui sont tournés vers le bio. Et en ce moment, on entend beaucoup parler de la crise du bio. On a vu le texte qui a été voté à l'Assemblée nationale là, sur les lois agricoles. C'est quand même... ça va pas dans le bon sens. Et malheureusement, ça vient de la PAC, en fait. C'est la PAC qui soutient les grands industriels, les grands céréaliers qui proposent pas de soutenir la petite production agricole et qui soutient pas la filière bio. Donc nous, on a des propositions concrètes sur ça. C'est débloquer 600 millions d'euros pour le bio. Mettre des prix planchers pour soutenir nos agriculteurs parce que dans les supermarchés on avait eu une inflation alimentaire mais c'était pas pour les agriculteurs cette marche, c'était pour l'agro-industrie, c'était pour les gros distributeurs, merci. On est contre les accords de libre-échange, là, les derniers, là, le Mercosur, on a bien vu là, en début d'année les agriculteurs qui sont mobilisés, qui ne comprenaient pas pourquoi du miel vient de l'autre bout de la planète, alors qu'ici, nos apiculteurs ne s'en sortent pas. Et c'est pareil pour la viande. Enfin voilà, ce genre de choses, on ne peut pas accepter ça en fait. Un agriculteur sur deux qui se suicide en France tous les deux jours, enfin c'est...
Alors, je reviens un peu sur votre programme basé quand même vers l'écologie aussi, par rapport à cette agriculture intensive que vous répudiez en quelque sorte. Et donc, il y a cet aspect de la paysannerie hein, que vous portez plutôt.
Oui, oui, oui. Et puis pour nous, ça n'a pas de sens par rapport à l'écologie de faire traverser des camions d'un bout à l'autre de l'Europe, en fait. Le fret, en Suisse, ils le font. Le fret ferroviaire, il faut le remettre en France. Macron a sabré ça en arrivant.
C'est pas d'hier, hein. Il y a toujours eu ce combat entre les routiers et la SNCF hein, depuis
oui,
des décennies.
Là, voilà, et là, c'est un des combats qu'il faut mener.
Au moment où avec tous les problèmes écologiques qui se posent.
Ah, pardon. Vas-y.
Donc, c'est un thème qu'il faut quand même qui soit développé. Il faut savoir quand même que la droite et l'extrême droite, ils ont fait alliance régulièrement pour torpiller les mesures de protection de l'environnement. Je parle au niveau de l'Europe. Hein, notamment dernièrement, sur la baisse des pesticides. Enfin, on devait voter la baisse des pesticides, mais en fait, les lobbies ont bien fait leur travail. Et c'est eux qui ont réussi à gagner le morceau. Et bon, on parle d'écologie, mais la droite et l'extrême droite, ils ont toujours voté contre le droit des femmes, des LGBTI. En fait, on voit bien qu'il y a une alliance des fois qui est contre nature, on pourrait dire, si on croit encore en une ancienne droite.
Justement, je reviens un peu sur l'aspect pour les femmes, Laura. Quel est ton sentiment sur cette politique gouvernementale?
Pourquoi moi?
Parce que tu es bien placée pour en parler, je crois. Et quelles sont les motivations au sein de la LFI, justement, pour les femmes?
Ben, il faut protéger les femmes et il faut protéger les violences. On voit bien là le cinéma et dans les médecins là dernièrement dans le secteur hospitalier où il y a des choses qui commencent à remonter aussi en fait. Il faut arrêter de ne pas considérer les femmes à leur juste place et de ne pas les rémunérer correctement aussi. Et c'est un peu ce qu'on oublie régulièrement dans les politiques sociales, mais en fait... Les familles les plus pauvres, c'est les familles monoparentales et c'est les femmes avec un seul enfant. À un moment, un pays qui travaille, un pays qui soutient ses habitants, c'est aussi un pays qui soutient ses habitantes et les enfants, parce que si on n'élève pas bien nos enfants dans de bonnes conditions, en fait, quels seront les citoyens de demain ?
Juste un petit aparté local. Hein. Effectivement, à la CLCV, par exemple, donc, dont on s'occupe, 9 cas sur 10 sont des femmes. Ce sont des femmes souvent seules et avec enfants. Donc ici, localement, dans le Diois, c'est vraiment une bataille qui a mené pour que tout le monde puisse trouver sa place.
Nous allons aussi sur cette phrase « Nous voulons vivre de notre travail ». Alors pour ça, il y a plusieurs propositions qui émanent de la France insoumise. Il y a le blocage des marges des distributeurs déjà aussi.
Oui, tout à fait.
Un salaire européen minimal, avec un essai d'harmonisation au niveau haut de ces salaires, parce que c'est vrai que souvent au niveau européen, ce qui essaye d'être mis en place, c'est justement de s'aligner sur les références les plus basses. On se bat pour que justement ce soit les références les plus hautes qui soient prises en compte. Il y a tous ces aspects-là, la remise en place, la réintroduction d'une industrialisation dans les pays européens pour justement faire fonctionner au mieux l'Europe.
Et justement, par rapport à l'Europe, est-ce que vous avez une connaissance justement de cette gestion de l'agriculture et des taux justement de rétribution? Est-ce qu'il y a une harmonie ou alors c'est complètement disparate en fonction des pays?
Oh ben c'est complètement disparate. Hein. Enfin, c'est bien connu. On a eu le plombier polonais à une époque, mais on voit bien que toutes les grandes fermes, justement en Ukraine et dans l'est de l'Europe, ne favorisent pas le développement local dans chaque pays. Hein. Après, bon, il n'y a pas que l'agriculture. Hein. Et, je voulais juste dire un mot sur les propositions de taxes sur les super-profits aussi, on peut en parler. La France insoumise se bat beaucoup pour ça. Laura, tu voulais dire quelque chose?
Oui, non, c'était juste pour... Je pensais aux tomates d'Espagne qui viennent... et c'est pas du tout... Enfin, ils ont d'ailleurs asséché l'Espagne, en fait, à surproduire des tomates en hiver sous serre, en faisant travailler des travailleurs émigrés pour que ça coûte moins cher. Sous couvert de bio, mais quel bio par rapport à la France? Enfin, voilà, une Europe sur le papier, oui, mais en fait, après, chaque agriculture fonctionne et nivelle, en effet, par le bas et en détruisant la planète.
Vous citez l'Espagne comme exemple, hein, pour les tomates. Est-ce qu'en France, il y a aussi d'autres types de cultures qui posent problème pour vous?
L'exemple qui me vient, c'est que lorsqu'on a dédouané les produits qui venaient d'Ukraine, notamment le poulet, puisqu'on est là-dedans, le poulet ukrainien a envahi le marché européen en étant complètement dédouané. Et cela sert qu'une grosse suprastructure ukrainienne qui s'est remplie bien les poches à ce moment-là. Il y a plein d'exemples hein, au niveau de l'agriculture de...
Oui, un exemple qui est vraiment frappant au niveau de la politique européenne et de la politique française, parce que c'est pas indépendant, c'est l'affaire des super bassines qui profite essentiellement à quelques producteurs, et ça au détriment de tout engagement écologique au niveau européen, au niveau français et au niveau européen.
Et d'ailleurs, ce qui vient d'être voté à l'Assemblée, c'est justement un peu dramatique pour les petites structures dont parlait Laura à l'instant. C'est que maintenant, il est possible de favoriser tout ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire des fermes, vous avez dans le Poitou, vous avez des fermes de 1100 hectares qui sont mises en place par des investisseurs et qui n'ont plus aucun rapport. D'ailleurs, quand on voit le président de la FNSEA, qui gère 9 milliards de budget avec ces différentes entreprises, on peut quand même sourire.
Justement, je reviens un peu aussi sur les aides à l'installation hein, pour les paysans. C'est ce que vous proposez également et comment vous procéderiez ?
Je crois qu'en fait, c'est difficile pour nous qui habitons le Diois, où il y a effectivement plein de petites entreprises avec qui travaille Laura sur les popotes notamment. Qu'est-ce qu'on peut
pour
proposer
pour la représentation de la France insoumise au Parlement européen, comment se...
Disons que ces propositions, elles, par rapport à l'agriculture, elles sont toujours basées sur des associations, sur des ONG. Elles se basent sur ce qui se passe vraiment dans la vraie vie, quoi, hein, et pas dans une mesure complètement libérale, voire des fois illibérale.
Alors, il y a l'agriculture, l'écologie aussi sont des maîtres mots pour votre campagne. Mmh. Quels sont aussi les sujets qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiteriez être débattus au Parlement et voir d'y remédier et d'évoluer ?
Oui. Non, mais on peut répondre à tout. Hein. Vas-y, Christian.
Les thèmes sont nombreux. Hein. Oui. Je veux dire... y compris, par exemple, les problèmes internationaux, même si ce n'est pas quelque chose qui est du domaine entier du Parlement. Le Parlement a en discuté par certains moments. Je veux dire que nos élus au Parlement européen, sur ce thème, c'est-à-dire à la fois la paix et le respect des règles internationales, ils mènent des batailles régulièrement. Qui est d'actualité, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient à l'heure actuelle, où nous soutenons les décisions de la Cour pénale internationale qui poursuit à la fois trois dirigeants du Hamas, mais également deux dirigeants israéliens. À noter que ce sont des personnes qui sont poursuivies, pas un État, pas un mouvement, mais ce sont vraiment les personnes qui sont poursuivies pour, soupçons de crimes de guerre. Oui, le 7 octobre, il y a des crimes de guerre qui ont été commis par le Hamas et LFI les a dénoncés dès le 7 octobre. Mais oui, également, l'armée israélienne, sur ses 8 mois d'offensive, elle a sans doute commis des crimes de guerre. Le blocage de l'aide humanitaire est un crime de guerre. La destruction systématique des hôpitaux, des universités est un crime de guerre. C'est pour les deux, dans les deux cas, on pense que c'est justifié les poursuites qui sont faites. C'est pour ça que depuis le début de l'offensive, nous demandons un cessez-le-feu permanent. Qui permettra d'une part les libérations des otages, mais également d'entamer des négociations de paix qui sont indispensables. C'est aussi pour ça qu'on demande au niveau européen et au niveau français que l'État palestinien soit reconnu, comme vient de le faire l'Espagne, la Norvège et l'Irlande, parce que ça nous semble quelque chose d'essentiel. Je voudrais revenir simplement sur, pour ceux qui l'ont écouté, hier matin à France Culture, Ronny Broman a rappelé une chose importante, c'est que le conflit n'a pas commencé le 7 octobre. C'est un conflit qui a plus de 80 ans d'existence maintenant, dont les prémices sont dans les années 1920. Et c'est donc une histoire très longue qui paraît. Avant le 7 octobre, il y avait tous les jours des Palestiniens qui mouraient sous les balles de l'armée israélienne ou des colons. Il y a plusieurs centaines de Palestiniens qui sont retenus dans les geôles israéliennes sans jugement. Et ça, ça fait partie aussi du bilan de ce conflit. C'est pour ça que, on soutient les résolutions de l'ONU, toutes les résolutions de l'ONU, y compris celles qui demandent la création d'un État palestinien. Et c'est à travers le respect de ces résolutions qu'on pourra aller vers une paix juste et durable, comme on le dit habituellement.
Et tous les procès d'intention qui sont faits actuellement sur la France insoumise par rapport à un antisémitisme ou un antisionisme ou quoi que ce soit, bah écoute, ça fait partie des combats qui sont menés au niveau de l'Europe par la France insoumise notamment. On combat le racisme, on combat l'antisémitisme, on combat l'islamophobie. Et maintenant, nous faire un procès d'intention, parce que c'est que de l'intention. Personnellement, ici, tous les gens présents, je pense qu'il n'y en a aucun qui a quoi que ce soit envers le peuple israélien. C'est même pas la question. C'est quelque chose qui est passé maintenant via les médias qui sont aux mains quand même à 90% des milliardaires qui veulent bien faire passer les messages qu'ils veulent. Mais nous, à aucun moment, on a ça dans notre tête. Donc il faut arrêter avec cet argument qui n'a pas de sens.
Je reviens un peu sur le flyer, la première version avec Manon Aubry, hein, qui était représentée. Et il y avait cette proposition aussi de la paix pour l'Ukraine et du cessez-le-feu pour le conflit israélo-palestinien. Pourquoi ces deux différences de direction? Pourquoi ne pas aussi proposer la paix, tout simplement, pour les deux?
C'est une proposition de la France insoumise, oui, depuis toujours, hein.
Là-dessus, la réponse que Manon Aubry a faite ce matin à France Inter était assez claire. Elle disait « on est pour la paix en Ukraine également ». En sachant qu'à l'heure actuelle, l'attitude de la Russie ne va pas vers ça. Mais à un moment donné, il faudra faire la paix. C'est pas parce qu'on demande la paix en Ukraine qu'on demande un statu quo. Il est évident qu'on demande que l'armée russe évacue tous les territoires qu'elle occupe à l'heure actuelle et qu'on entame des négociations de paix sur une base nette.
Oui, d'abord l'attitude de Macron qui veut maintenant qu'on puisse envoyer des missiles français en Russie, ça va pas dans le bon sens, quoi. Je veux dire, on peut que s'opposer à ce genre de principe.
Laura, quelles sont aussi peut-être les propositions qui t'ont séduite sur ce flyer que je citais avec Manon Aubry?
Je sais pas, moi, de fait, je milite pour des gens qui défendent les valeurs qui me sont chères. Et pour moi, c'est la justice, c'est l'égalité, c'est prendre en compte ceux qui sont au plus bas et pas faire qu'on les enfonce plus. Et malheureusement, si on va dans le sens qui est voulu par la Commission européenne, qui est voulu par la droite ou les gens qui voteraient plutôt Macron et tout ça, ce serait protéger les plus riches et taper encore sur les plus faibles. Et moi, c'est juste pas possible, en fait. Et après, de là, c'est défendre les droits de tous, c'est accueillir tout le monde, en fait, parce qu'il y a des graves crises écologiques sur la planète et il faut en tenir compte. Il faut évidemment aussi se soutenir et pas s'ériger les uns contre les autres. Moi, je milite pour ça et c'est ça qui m'anime, mais sinon, je ne serais pas là à distribuer des tracts.
Oui, et puis au niveau du Diwad, un petit territoire comme le nôtre, parce que c'est quand même intéressant de revenir chez soi un peu par rapport à ça, hein. Toutes les actions que l'on mène vont dans ce sens-là, hein. Toutes celles que j'ai citées, etc., c'est une prise en compte de la difficulté des unes et des autres. Et d'essayer d'avoir une action qui est transversale. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de classe sociale, de moyens ou quoi que ce soit. C'est l'engagement, il est complètement bénévole et au service. On se met on a une pensée humaniste par rapport à toute notre vie locale et au-delà, bien sûr.
Un petit rappel, la France insoumise représentée depuis 2019, comme vous le disiez, au Parlement. Sous quelle égide le LFI est présente, puisqu'il y a des mouvements hein, comme le Parti populaire européen ou d'autres partis à gauche. Sous quel aspect vous êtes? Et justement, quel est le lien entre tous ces pays d'Europe? Est-ce qu'il y a justement une corrélation et peut-être des moyens d'échange et peut-être d'action également?
Alors, LFI fait partie d'un groupe parlementaire européen. Donc on en a parlé tout à l'heure, qui regroupe 37 députés, Donc pas exclusivement des députés de la France insoumise, puisqu'on n'avait que 7 ou 8 députés la dernière législative. Également des gens d'Allemagne, des Linke, etc., etc. Et le but que l'on a au prochain Parlement, c'est de pouvoir reformer un groupe également, ce qui sera sûrement avec une géométrie différente, parce que les choses évoluent suivant les pays. Il y a des pays pour lesquels la situation est peut-être moins favorable qu'elle n'était en 2019, en particulier en Allemagne, où Die Linke a du mal à garder une épaisseur importante. Mais il y a des pays où il y a une montée des courants avec lesquels nous sommes en accord. Et on espère bien pouvoir, au prochain Parlement, pouvoir reformer un groupe parlementaire où LFI aura le rôle moteur qu'elle a eu sur le précédent groupe parlementaire.
Et puis aussi des mouvements qui montent aussi, qui montent en puissance. Et on le voit bien, hein, il y a actuellement un péril fasciste, réactionnaire, xénophobe, on pourrait dire presque nazi, puisque c'est ce qui se passe en Allemagne. On voit bien que maintenant, il y a des bases qui sont posées en Hollande, donc aux Pays-Bas,
en Suède,
et on voit bien qu'en France, tous les fameux sondages là, qui nous balancent plus de 30% pour le RN, les fascistes, les réactionnaires, les xénophobes, les anti-écologistes, les anti-féministes, c'est l'inverse. Voilà, c'est tout simple.
Nous arrivons près de la fin de l'émission. Je voudrais vous demander à chacun de pouvoir parler aux auditeurs et de leur d'exprimer pourquoi voter pour la France insoumise.
Il ne s'agit pas d'une posture politique, hein, mais par exemple, puisque tu me demandes, je vais parler à mon nom, hein, je vais dire « je ». Hein. Moi, pour ma part, j'ai bientôt 70 ans et je n'ai jamais dû affronter des situations pareilles. Une situation globale en France et dans le monde, je n'ai jamais vu ça. Donc, il y a une guerre sur le territoire européen qui peut s'amplifier, avec Macron, là, le va-t-en-guerre local. Et puis, l'extrême droite qui pose tous ces problèmes là, dont on vient de parler à l'instant. Et j'ai parlé l'autre jour avec un ami historien qui me disait qu'il y avait quelques similitudes avec ce qui se passait à l'avant-guerre, la dernière, quoi, 39-45. Donc ça nous pose question, hein, ça nous pose vraiment question. Donc c'est pour ça que l'idée de l'engagement à tout niveau, hein, je répète, hein, culturel, sportif, etc., le fait que les gens s'engagent dans un processus de relation à l'autre, de prise en compte des problèmes des uns et des autres, c'est un peu ça notre action fondamentale. Et on espère qu'il va y avoir que l'engagement va venir de plus en plus et qu'on va essayer d'éviter quand même ce qui se profile.
Je passe à Christian, oui.
Oui, déjà dans un premier temps, le 9 juin, pour que la gauche soit à sa place et que on ait la possibilité de défendre ses positions au niveau européen, c'est important que les gens viennent voter LFI le 9 juin pour que le poids de la gauche soit le plus important possible au prochain Parlement.
Laura ?
Oui, moi, en fait, c'est quel avenir on veut. Et moi, je n'ai pas envie d'un avenir où ce soit encore les plus gros qui se gavent et nous qui n'avons rien. Moi, je suis loin de la retraite, peut-être que j'y arriverai pas, parce que nos générations, elles bouffent des pesticides, elles ont des cancers qui émergent de toutes sortes. Moi, je vois ma fille là, qui est en face de moi, et j'ai envie qu'elle ait un avenir meilleur et pas juste une société sous surveillance, une société ultra technologique, sans lien, sans humain. Moi je veux des choses avec des fleurs et des gens qui se rencontrent et qui font des belles choses, et pour moi c'est la France insoumise pour laquelle il faut voter.
Toutes ces propositions, on peut aussi les retrouver hein, sur le site de la France insoumise. Je donne l'adresse la-fi.fr/agriculture. Ça c'est pour le domaine agricole, mais il y a d'autres sujets qui seront abordés.
Il y a tout.
Et puis nous allons nous quitter aussi avec
merci bien,
Georges Moustaki, sans la nommer. Voilà. Eh bien, en tout cas, je vous remercie Christian, Hervé et Laura d'être venus sur RVOA pour cette campagne électorale européenne le 9 juin. Pensez à voter. Bonne soirée.
Je
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on attaque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.